Bonjour, bienvenue à Point de vue, le podcast 100% cinéma à Montréal, épisode 201. Mon nom est Paul Andrew et je suis avec mes collègues
Rémi Fréchette
et Pascal Plante.
Ben hey, oui.
De retour sur un format plus régulier.
Plus oui, court aussi, hein? On a comme fait un 2h15 en l'honneur de nos, notre anniversaire.
Ouais, c'est pas aussi long que The Irishman, mais c'est quand même. C'est quand même un long podcast. Non, je t'inquiète.
Mais si vous voulez d'ailleurs écouter notre podcast comme une mini-série, je vous conseille de couper à la minute 21, 39, 60.
On peut-tu l'adresser, ça, man? C'était tout... Le gars sur le Twitter, là, c'est un imbécile. C'était quoi? C'était un journaliste suédois, je pense.
C'est ça, hein? Je pense que tu y vas un peu fort, là.
C'est un imbécile.
Mais pour vrai, en tout cas, on va en parler. Moi, je trouve qu'en plus. Ok, attends, The Irishman. En plus, là, moi, je l'ai commencé.
Okay. Attends, c'est quoi ce The Irishman, Pascal? J'en ai jamais entendu parler. Dis-moi, c'est quoi?
Nouvel opus de Martin Scorsese sur Netflix depuis le 27 novembre. Ben oui, tu le sais.
Parfait,
bon. Puis, en plus, c'est arrivé qu'on l'a commencé, ma copine et moi, et oui, on l'a écouté de chez nous, parce qu'il joue quand même, hein, il faut le dire, il joue à la Cinémathèque et au cinéma moderne. Fait que si vous voulez effectivement vivre l'expérience en salle à Montréal, c'est tout à fait possible de le faire. Puis inversement, il y a Scorsese, cinéma dollar aussi. Puis inversement, il y a Scorsese qui a dit, qui a demandé, écoute, plus s'il vous plaît, là, écoutez-le pas, gardez-vous une petite gêne, écoutez-le pas sur votre téléphone. Donc, je pense qu'entre les deux, c'est aussi plausible. Donc, c'est un peu comme ça que je l'ai regardé, moi, personnellement. Puis on l'a commencé un peu tard, puis effectivement, moi je l'avais arrêté à peu près à une heure. Donc,
une heure,
écouté une heure du début.
Ouais. Puis ensuite, j'ai écouté les 2h30 restantes d'une traite le lendemain.
Fait que dans le fond, au moment où tu t'es dit, bon, le Uncanny Valley va bien, là t'es passé à autre chose.
Ben, c'est surtout que, en plus, je me suis couché après la première heure de The Irishman et, à mon très humble avis, là, peut-être que je me précède les grands chevaux, là, mais je trouve que le début du film est de loin sa portion la plus faible. Je trouve que, en fait, quand on l'a arrêté à ce moment-là, je trouvais que ça fonctionnait pas du tout. Puis je vais y venir pour quelle raison. Puis en fait, le film finit par fonctionner parce qu'il y a comme un effet de t'es vraiment dans la vie de cette personne-là, t'as le temps qui passe, il y a le poids de la vieillesse. C'est un film qui devient aussi beaucoup plus original qu'un Émule de Goodfellas et de Casino et t'sais, par justement ces thèmes sur justement la vieillesse, le rapport au syndicat aussi. Donc quand on est vraiment dans la viande avec le personnage de Jimmy Hoffa, interprété par Al Pacino. En tout cas, on peut faire une synopsis là, peut-être là, tant qu'à faire. Hey, je prends le contrôle du podcast, les amis, ça y va.
Vas-y, ça me fait une durée.
Non, mais tu veux-tu faire un synopsis, tiens, comme ça, on va me faire fermer la gueule quelques secondes, puis ensuite, tu pourrais...
Je l'ai pas vu, en fait, encore, je vous laisse un peu en discuter.
Hey, mais moi, pour vrai, j'aurais de la misère à faire un synopsis d'un film de 3h15, là, 3h20, là, c'est comme...
Ouais.
Parce que, tu peux le résumer en une phrase, comme tu peux passer 10 minutes à
comme
résumer l'histoire.
Comme tu peux t'y perdre, ouais,
parce
complètement.
Parce que c'est vraiment sur une base à la Goodfellas, tu vois toute son entrée dans le crime, comment il a commencé à devenir criminel, puis son build-up vers jusqu'à la fin de sa vie. Là. Puis ça, c'est pas un spoiler, parce que le film ouvre avec De Niro, qui est à 90 ans, 95 ans.
Ouais, fait que, cloué à une chaise roulante dans une maison de retraite, sur fond, après un grand travelling scorsésien sur fond de musique, là, doo-wop, là, c'est In the Still of the Night. Là,
est-ce qu'il est en forme, Scorsese, hein? Tu sais, un bonhomme de quoi, 77, 78 ans, là, qui fait ça, là, c'est quand même... Moi, là, tu sais, comme des cinéastes comme lui, puis Herzog, puis qu'est-ce que sont en forme, là, ils ont de l'énergie, là, puis c'est complètement fou, là, qu'à cet âge-là, il y a plus d'énergie qu'un petit jeune, là.
Mais, moi, ça me bluffait beaucoup plus dans un film comme The Wolf of Wall Street, par exemple. Là, je trouvais qu'il s'était vraiment collé à une autre génération, puis d'une façon qui était pas du tout genre vieux pépère commande sur les jeunes. Tu sais, je trouvais vraiment que dans The Wolf of Wall Street, tu sentais là, que c'était un homme, ben oui, d'une certaine expérience, d'un certain âge, mais qui a été là, complètement, je pense, investi probablement avec des tonnes de consultants. Il a sûrement côtoyé, tu sais, avec sa relation avec DiCaprio, là, peut-être aussi énergisé, rajeuni, je sais pas quoi, versus, là, il y a un effet pantoufle, tu sais, en reprenant, bon, évidemment, Joe Pesci, hein, qui est sorti de la retraite, premièrement, mais ensuite, De Niro, c'est sa première collaboration avec Pacino, tu sais, on pourrait penser, sans trop réfléchir, que, que Scorsese a fait plein de films avec Pacino, alors que c'est pas du tout le cas.
Ouais, bon. Ça a même pris du temps avec Pacino puis De Niro se retrouvent à l'écran. Je pense que c'était Heat qui était le premier, si je me trompe pas. Ben,
puis tu sais que dans Heat, en plus, ils ne partagent jamais l'écran en tout shot.
C'est vrai, c'est vrai. Ouais.
Parce que c'est un peu la joke, c'est un peu le running gag, parce que dans Godfather 2, ben, ils sont pas sur la même époque non plus, Pacino et De Niro. Puis le premier film qui avait fait ça, hey, j'ai oublié le titre, mais tu sais, c'est un film de gangster vraiment mauvais, là. Il y a un film dans les années...
Righteous Kill, là, en 2008.
Oui, exactement. Ouais. C'est ça. Donc, mais là, là, il y a quelque chose dans The Irishman qui est vraiment intéressant du fait qu'ils sont filmés par Scorsese. Il y a une petite scène, je ne dévoilerai pas grand-chose, mais il y a une petite scène où ils partagent une petite chambre d'hôtel. T'as Pacino comme dans un petit pyjama qui jase sur son lit à De Niro. Il y a un petit effet confessionnal comme cosy entre ces deux monuments-là de l'histoire du cinéma qui sont désacralisés puis mis ensemble dans un film quand même tendre dans certaines scènes, un film relativement tendre, là, quand même, The Irishman. Donc, on porte un autre regard. On le sait qu'ils ont vieilli. Tout le film est basé là-dessus. Puis ça a fait couler beaucoup d'encre aussi, les fameux effets spéciaux de dévieillissement.
On va l'adresser, là, quand même, parce qu'il y a plein de monde qui disent que ça les fait décrocher du film. Tu sais, ça paraît un peu quand... Surtout que... Mais l'affaire, c'est que t'arrives dans le film puis tu le sais, ça. Fait que tu peux pas comme t'empêcher de checker puis de faire comme ah, c'est bien fait ou ah, c'est mal fait, là. Tu sais, c'est comme physiquement, là, tu sais, quand t'es cinéphile puis tu sais que ce device-là, tu vas le regarder puis tu vas le juger comme il est. Ce qui joue contre le film, c'est que les premières scènes de dévieillissement, c'est en plein jour à l'extérieur, dans un shot-canto-shot en close-up. Puis malheureusement, c'est peut-être les moins bonnes shots du film. Puis l'autre affaire, c'est que tu t'habitues un peu à leur...
Ben, tu t'habitues, puis aussi, il y a quelque chose qui a été un peu étrange, c'est que, tu sais, comme quand on attrape De Niro dans sa pleine vieillesse au début du film, le personnage, je pense qu'il y a des lunettes fumées aussi, puis c'est parce qu'il y a un autre élément, c'est comme il y a deux affaires empilées les unes par-dessus les autres avec le personnage de De Niro dans Irishman, c'est que il y a aussi les yeux bleus. Puis je veux dire, pour un cinéphile qui a vu je sais pas combien de dizaines de films avec Robert De Niro, déjà que le personnage ait les yeux bleus de A à Z dans le film, c'est comme déjà une première pilule à avaler. Puis c'est parce que t'as comme deux pilules à avaler en même temps. T'as comme lui qui est comme jeune, mais bizarrement jeune, un peu lisse, un peu sans vie. C'est un peu bizarre. Mais t'as en plus aussi les yeux. Moi, ça m'a pris quelques scènes avant de me rendre compte que, ah ben oui, Chris, il y a les yeux bleus. C'est ça qui est weird. Fait qu'en tout cas, il y a comme deux affaires qu'il faut digérer en même temps. Puis j'avoue qu'il y a un effort à faire. J'avoue. T'sais, c'est dur.
Mais c'est bien. C'est vraiment bien fait, là. C'est pas mal le top de ce qui peut se faire présentement. Oui. Puis tu sais, je suis certain qu'ils l'ont poussé le plus qu'ils pouvaient, là. C'est quand même, tu sais, c'est pas des deux de pique qui ont fait
ça. Ce serait parfait que ce serait weird aussi. Parce qu'on le sait que c'est un procédé. On peut pas se défaire de ça d'une certaine façon.
J'aime déjà mieux ça que de caster un autre comédien pour faire De Niro parce qu'il est tellement à l'écran qu'il, tu sais, il aurait fallu quasiment que quelqu'un imite, là, quasiment comme Jack Nicholson dans Doctor Sleep, là, tu sais, qu'il faut qu'il émule, puis là, ça fait juste comme une parodie du gars. Fait que, tu sais, j'ai l'impression que ça m'aurait plus dérangé de recaster que ce qu'ils ont fait.
Oui, puis c'est que l'irritant de ça, il est plutôt au début du film. Moi, je pense qu'effectivement, on s'y habitue, mais il y a un payoff à ça, c'est que quand même, à la fin, il y a un sentiment de « ouf, on a vraiment vécu ».
Ouais.
Le poids avec des lui, années, là. on dirait qu'il se ressent. Donc, s'il fallait passer par le turn-off immédiat de la technologie de dévieillissement, mais pour avoir un effet comme plutôt fort et plutôt réussi dans ce souffle-là de la vie de cet homme, ben pourquoi pas? T'sais, finalement, ça se défend très bien au niveau idéologique, là, ce choix-là.
Ouais, pis je crois. Puis la dernière petite chose, je dirais juste par rapport à ce point-là, c'est parfois aussi, quand il y a des plans larges où De Niro est censé être jeune et fringant, ben tu sais, c'est quand même un monsieur de 70-75 ans qui joue.
C'est ça!
Fait que tu le sens que c'est comme un vieux bonhomme qui marche, puis qui se... Oui. Tu sais, il y a comme une scène où il y a comme un monsieur qui, en rapport avec sa fille, là, j'essaie de le dire sans le dire, puis il s'en va voir ce gars-là, puis il y a comme une petite altercation, là. Ben là, tu le sens que c'est comme un vieux bonhomme qui se bat, là, tu sais. Tu le sens dans le corps, malheureusement, mais tu sais, qu'est-ce que tu veux faire, là? Fait...
Ouais, ça se ressent beaucoup aussi chez Joe Pesci, là, quand il est censé jouer plus jeune, tu sens que... effectivement, le corps parle, puis ça nous fait réfléchir à effectivement le langage non-verbal. D'une certaine façon, c'est comme si on écarte tout ce que le non-verbal nous dit, puis c'est peut-être ça aussi qui joue en dissonance. T'es comme, voyons, oui, De Niro, il a la face de quelqu'un peut-être de 50 ans, mais clairement, il a peut-être 70-15 passé. Disons, il a tout ça accepté, mais moi, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Rémi?
Ceci dit, ben, parce qu'il fallait en parler, là, tu sais, c'est comme un peu, c'est comme on dit l'éléphant dans la pièce, là, je pense qu'il y a bien du monde qui ont chié sur le film juste à cause de ça, là, puis je trouve que c'est
c'est réducteur à fond, là, il y a tellement d'affaires dans ce, il y a tellement de substance dans le film.
C'est riche comme film, là, c'est tellement, tellement riche, puis c'est juste chaque petit moment, chaque petite scène qui est ajoutée pour grossir le puzzle puis grossir l'histoire de cet homme-là, c'est vraiment magnifique. Là. Des fois, une petite scène de genre 2-3 plans qui a dû être crissement compliqué à tourner, ben, elle est là pour servir le personnage puis servir l'histoire puis construire le mythe autour de l'Irishman. Fait que, tu sais, ça a été épique, mais tu sais, c'est ça, c'est 3h30, je pense qu'en rentrant dans un film de 3h30, moi, je l'ai vu à la maison, je dis en rentrant dans le sens, de 3h30, tu le sais un peu, tu t'attends à ce que ça soit long, là, fait que je pense pas que, moi, ça a pas été un problème pour moi, je trouve que ça passait même... assez vite pour un film de 3h30.
Ça passe très vite pour un film. C'est ça, en fait, c'est ça que je comprends pas. Ben, en fait, j'ai lu... je suis jamais d'accord avec Marc Cassivi dans la vie, mais je t'avoue que j'ai lu un article de La Plume de Marc Cassivi. Est-ce que vous savez de quel article je parle?
La Netflixisation.
Ouais, c'est ça. Puis en fait, je me suis surpris à être plutôt d'accord avec tout ce qu'il avance. Mais c'est surtout que c'est vraiment deux poids, deux mesures, tu sais, la relation qu'on a au temps dans un contenu. C'est comme si... Puis lui, il avance une hypothèse que je trouve quand même intéressante, c'est-à-dire, dans une série, c'est comme si... c'est comme s'il y a un pacte invisible qui dit que c'est toi qui es en contrôle, alors que le cinéma, ça a toujours un peu, par définition, été l'inverse. C'est-à-dire, quand tu rentres dans une salle de cinéma... T'es un peu à la merci de l'offre. T'sais, l'offre t'enveloppe, puis t'es un peu pris là-dedans. Mais finalement, ça veut rien dire. T'sais, c'est juste quand on visionne un film à la maison, qu'on peut l'arrêter un peu en tout temps, ça a plus ce rapport-là, mais est-ce que ça l'a encore un peu, peut-être? C'est comme si un film de 3h30, c'est comme... Ah, tu sais, je rentre dans quelque chose que j'aurais peut-être pas le droit d'arrêter, ou que je sais pas comment le dire, mais on n'est pas dans le même mindset.
Je crois surtout que c'est le mode d'écriture qui est complètement différent.
Mais c'est surtout ça, en fait.
Puis pour moi, c'est ça. C'est moins une question de durée totale que de mode d'écriture. Puis c'est un peu la même chose avec le roman. Tu prends des feuilletons à l'époque ou des espèces de romans, on va dire, populaires, des best-sellers qui sont des, mettons, avec des chapitres très courts, très prenants, ce qu'on appelle en anglais des page-turners. Un exemple, un des plus classiques, c'est genre Da Vinci Code, là, qui a été vendu à 100 millions d'exemplaires. C'est quand même un livre de comme 500 pages, mais c'est vraiment des courts chapitres qui donnent toujours un peu le goût de continuer puis de voir c'est avec quoi la prochaine révélation, tout ça.
Ouais.
Alors que certains romans plus difficiles, plus obtus, de comme 200 pages, des fois sont durs à compléter parce que c'est un autre style d'écriture. T'sais. Fait que pour moi, c'est peut-être un peu ça aussi la distinction entre la télévision aussi de prestige soit-elle qu'un film. Et c'est là aussi où Twin Peaks, encore une fois, vient brouiller les cartes. Parce que c'est vrai que Twin Peaks The Return, il n'y a pas vraiment de punch d'un épisode à l'autre.
Il n'y a aucun cliffhanger, c'est ça.
C'est ça.
Mais pas vraiment. Il y en a un peu, mais pas tant que ça.
Puis tu sais, c'est pas comme si chaque épisode se suivait comme OK, là, on va suivre tout de suite les aventures des personnages. Tu as des épisodes vraiment que. On est ailleurs, on est avec d'autres personnages. C'est comme un reset. C'est comme tu commences un autre épisode et ça n'a rien à voir avec ce que tu as vu jusqu'à présent. Donc, c'est là pour moi la distinction notable peut-être entre la télévision dite grand public, on va dire, puis populaire, et un film comme celui, comme Irishman ou comme Hidden Life aussi, un autre gros morceau de cette fin d'année.
Oui, exact. Exact. Mais tu sais, on parle quand même d'un film de Scorsese. On parle de son film, là, le plus... Moi, en fait, c'est drôle. Moi, je trouve que c'est un de ses films les plus hyperactifs, personnellement. Même si, oui, on est protagoniste d'un certain âge.
Ah, puis Casino puis Wolf of Wall Street, man, c'est deux films de trois heures là, qui sont vraiment pop. Là, genre qui...
Exactement, exactement. Je le vois comme pas, l'espèce de film aride de trois heures et demie dont tout le monde parle. Moi-même, là, je t'avoue, moi, j'ai des bémols sur le film, je vais y venir. Cela dit, c'est un film, là, le rythme est effréné. Trouve un moment là, opportun pour te dire « Ok, c'est là que je le pose juste pour aller pisser. » C'est comme, c'est dur. Les scènes, les sound bridges, constamment, ça bouge, il y a du mouvement, on est toujours en progression. En fait, je trouve que c'est vraiment, si critique il y a, moi, jamais ça va être au niveau du rythme. S'il y a de quoi, ce film-là, là, c'est le 3h30 qui passe le plus vite quasiment que j'ai.
Le stock...
Ça n'a pas de sens. On dirait que ça dure ça, 2h quelque, là, je sais pas. C'est exactement le...
Mais film vient d'être mis en ligne il y a moins qu'une semaine, ou il y a une semaine. La plupart des gens, je pense, n'ont peut-être pas encore eu la chance de le voir. Et puis, je pense que ces réactions-là négatives, c'est juste un premier aperçu des gens qui étaient devant leur watch list là, de Netflix, devant leur liste de films à écouter et de séries à écouter. Là, ils scrollaient. Ah, nouveauté Irishman, ils voient le 209 minutes, ils cliquent pas dessus, puis ils vont se plaindre. Là, ouais. Mais je pense qu'une fois que tu lui donnes la chance, Scorsese, c'est pas un des cinéastes les plus populaires pour rien. C'est qu'il est capable de bien concilier cinéma d'auteur et cinéma populaire.
Ben, ouais. Oui, puis en plus, c'est un cinéaste qui est très stimulant. Moi, de plus en plus, en fait, en tant que moi-même, là, cinéaste, là, je trouve aussi que c'est un cinéaste aussi de... Oui, pour les cinéphiles, pour les critiques, mais beaucoup pour les cinéastes. Moi, tu sors d'un Scorsese, le dude, il a quasiment 80 ans, puis il donne envie de mettre plus d'épices dans tes propres projets. Je sais pas, tu sais, il y a vraiment ce don-là, cette espèce d'amour du cinéma et du médium et sa façon de parler son langage-là. Il est hyper contagieux. Ça, c'est encore une fois une des bonnes choses dans The Irishman. C'est comme... C'est du cinéma. Je veux dire, peu importe comment on le consomme, il n'y a aucune autre façon de le dire. Le gars, il est habité, il connaît tout, son image, montage, musique, je veux dire, name it, c'est vraiment un cinéaste, là. Il y a le feu, là. Il y a vraiment le feu, puis c'est contagieux, puis c'est beau, tu sais. Ouais, là où on avait des critiques sur Once Upon a Time in Hollywood, Scorsese ne tombe pas du tout dans ces écueils-là, je trouve.
Mais le monde il chiale aussi, là, puis comme... Il écoute, il binge-watch des séries, là, il binge-watch, c'est même pas, c'est trois épisodes et demi de Game of Thrones, là, tu sais. Le monde, il se tape tellement de télé, tellement que Netflix, ils ont mis une fonction où tu peux écouter les trucs en 1,5 fois la vitesse. Fait que tu peux écouter encore plus vite du contenu, puis en gobant encore plus vite. Qu'est-ce que tu fais à comme chialer sur le code de 3h20? Puis tu sais, c'est quand même une bonne chose parce qu'au cinéma, Scorsese n'aurait jamais pu présenter un film de même. Là. C'est un film aussi
En fait, il aurait pu, mais c'est juste que les studios ont dit non.
On s'entend que les Cinéplex et les grosses chaînes, c'est plus profitable pour eux d'avoir des films courts parce qu'ils vendent plus de billets, ils vendent plus de popcorn.
Ça dépend juste du projet. T'sais, des Lord of the Rings et des Avengers Endgame, ils font leur argent. Là,
ouais, mais tu sais, les producteurs qui seraient passés au coteux, Lord of the Rings sont passés au coteux justement. C'est sûr qu'il y a des Director's Cut qui existent, tu sais. Mais.
Dans le cas de Lord of the Rings, vraiment, Peter Jackson a approuvé ces cuts-là. Les versions longues, c'est vraiment les versions extended. C'est des versions bonus pour les fans, mais ça n'a jamais été vraiment la version préférée.
J'ai juste le feeling que c'est un film qui aurait probablement eu potentiellement, là, ok, je vais dire potentiellement, je ne suis pas dans la tête de Scorsese, mais d'après moi, c'est le genre d'affaire qui aurait probablement eu des coupures à notre époque au cinéma, puis le fait que ça soit sur Netflix, ben Netflix donne des libertés quand même aux gros noms, puis surtout Netflix veulent leur Oscar de Best Picture, je pense.
Voilà, cette année, ça crie ça.
Je pense qu'ils vont juste laisser carte blanche, puis les laisser travailler, là, tu sais. Il y a un autre morceau qu'on va peut-être aborder, mais Marriage Story, c'est quand même un 2h20, tu sais, puis...
Ouais, c'est vrai,
c'est des films assez denses, mais j'ai l'impression qu'ils laissent la place aux créateurs de mettre sur la table ce qu'ils ont puis de se croiser les doigts après ça pour avoir le score. Là.
Mais c'est vraiment leur année, là, et en documentaire, et en fiction, en fiction entre Irishman et Marriage Story. Puis là, c'est ça, c'était une prophétie que j'avais un peu dit au podcast, je sais plus dans quel épisode, mais tu sais, j'étais comme, gagez-vous que Netflix va genre avoir leur propre salle de cinéma pour rendre leur propre film éligible à un certain circuit et un certain prestige, et de deux, ben, d'être encore en pleine possession de son mode de diffusion. Puis comme de fait, là, tout récemment, là, Netflix acquiert, il y a un cinéma à New York, entre autres, là, qui ont comme rénové, acquéri, tout ça.
Le Paris, en fait, ils l'ont pas rénové, il me semble que c'est la même chose, mais c'est que le Paris avait fermé plus tôt cette année.
C'est ça, excuse, oui.
C'est-à-dire que c'est les locataires donc, du Paris qui avait fait faillite, et le propriétaire ne savait pas trop quoi faire pour le moment. C'est depuis avril que le film était fermé, que le cinéma était fermé. Et c'est le dernier cinéma à New York qui a un seul écran, qui n'a pas bougé depuis l'époque. Ça fait comme 60 ans qu'il existe, quelque chose comme ça. Et c'était vraiment un cinéma qui a été fondamental pour comme instaurer certains films. Puis notamment, j'avais été à New York avec ma copine il y a quelques années, puis il y avait Call Me By Your Name qui a joué genre 4 mois ou 5 mois au Paris. Et là, c'était Pavarotti, le dernier film à l'affiche, le documentaire de Ron Howard, avant qu'il ferme. Et là, ils l'ont réouvert pour effectivement Marriage Story. Et ils sont engagés à signer un bail de 10 ans de location. Donc, le cinéma va au moins survivre 10 ans. Puis ça va être, dans le fond, pour présenter les films de Netflix, évidemment.
Absolument. Bon, c'est ça, c'est ça. Ben, merci de me... Parce que je t'avoue que j'ai vu ça passer, mais je n'ai pas creusé autant que toi. Merci de ta rectitude. Mais donc, qu'est-ce qu'on en a pensé de The Irishman? Moi, je pense que si tu l'écoutes comme une télésérie, ça échoue lamentablement. Si tu l'écoutes comme un film, ça réussit plutôt bien. Parce que si ça avait été une mini-série, je pense que j'aurais écouté un épisode puis j'aurais fait « fuck that shit ». Personnellement, je trouve vraiment que le début est de loin son pire moment. Je trouve que, en fait, c'est ça. C'est que Scorsese reprend ses thèmes de prédilection. On parle d'un film, de
même sa structure, en fait,
italienne.
Là.
De quoi,
excuse-moi? Même sa structure, là, je veux dire, c'est très Goodfellas, là.
Oui, c'est un rise and fall scorsésien.
Avec la voice-over, puis... c'est comme une suite spirituelle, là, dans un sens.
Absolument. Puis, en fait, c'est que, déjà, ben, tu sais, Scorsese, mettons, il fait Main Street en 73, ce qui n'est pas son premier film, mais pour beaucoup de gens, c'est un peu comme son éclosion, tu sais, c'est son premier film peut-être plus abouti, puis il parlait effectivement de mafia italo-américaine dans Main Street. Mais quand il le revisite dans Goodfellas, c'est tout à fait frais, et il le revisite d'une façon vraiment neuve. T'sais, c'est un des ultimes films de gangster. Je pense que c'est indéniable. Entre Godfather et Goodfellas, ça va. Je pense que c'est pas mal les deux canons. Puis seulement 5 ans plus tard, il fait Casino, qui est vraiment pas mal fichu, mais Casino souffre vraiment beaucoup, en fait, d'être une genre de suite spirituelle à Goodfellas, avec les mêmes tics, les mêmes quirks, là, qu'on dit en anglais, là, les mêmes façons de faire, le même modus operandi. C'est un bon film, Casino, mais... Tu me dis, réécoute un Scorsese de gangster, dans quel monde je vais revisiter Casino quand je peux revisiter Goodfellas d'une certaine façon? Je trouve que c'est une part. Il souffre finalement d'être un peu le petit frère pauvre, je crois, de Goodfellas. Puis là, The Irishman, ça commence exactement comme une genre de suite encore à ce. Un genre de troisième suite. C'est le Godfather 3, là, de cette espèce de trilogie-là non officielle, tu sais. Puis j'étais comme, ah, man, ça me gossait là, sévèrement. Puis, en fait, le film tourne du tout au tout pour moi, dans mon appréciation personnelle, lorsque Al Pacino arrive, en fait, dans l'équation. Parce que, je vais le dire, puis il n'y a pas grand gens qui ont peut-être osé défendre cette opinion-là, mais je trouve De Niro fatigué dans le film. Je le trouve vraiment pas à la hauteur comme acteur. Il y a une scène où il fait un appel téléphonique, ceux qui l'ont vu savent de quoi je parle, qui m'a touché, qui a vraiment fonctionné, où je pense qu'il a apporté son vrai jeu sur la table, mais autrement, moi, j'ai vraiment senti un pilote automatique dépourvu d'intériorité. Et c'est triste. Je dis pas ça comme... Je trouve que c'est un triste constat qu'en 2019, De Niro n'ait plus de trip. Mais moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai perçu. Quand un aussi beau rôle est aussi vide, c'est vraiment dommage.
Ben même Joe Pesci est super bon, mais tu sais, il y a pas beaucoup de choses à faire dans le film, là, on s'entend. Là.
Non, c'est ça.
Sur 3 heures et quelques, il n'y a pas de grande scène avec Joe Pesci. Là. On est juste bien content de le voir à l'écran, mais c'est pas comme son rôle de carrière. Là. C'est juste un nice comeback. Là.
Ouais, puis, à l'inverse.
Pacino, il a été utilisé pour ce qui est bon, c'est-à-dire piquer des crises de colère, puis se fâcher, puis crier. Puis tu sais, Pacino, c'est, il a basé sa carrière là-dessus. Puis,
ouais, mais ouais.
Tu sais, on passe à The Scent of a Woman, allez voir la compilation oui, oui, oui. sur YouTube, Scent of a Woman, de lui qui fait des houah, puis comme, c'est comme, c'est ça qui est bon à faire. Puis il a donné ce rôle-là, puis il le fait super bien. Il est comme constant là-dedans, là.
Donc, à vous entendre parler, on dirait un peu comme... tu sais, tu vas voir comme la dernière tournée des Stones, là, puis les billets valent genre 400$, puis t'es comme...
Ben,
c'est sûr que les joueurs sont un peu fatigués, puis ils n'auront jamais l'énergie qu'ils avaient jadis, mais
ben,
t'es quand même
bon
content
show.
Parce que c'est les fucking Stones, puis genre... Le show, il dure 3h30.
Mais moi, je prends ta balle au bon. En fait, Rémi, je trouve qu'il fait plus que ça, Pacino. Moi, il m'a vraiment surpris, puis je trouve que... Non, en fait, je l'ai pas trouvé... Lui, je l'ai pas trouvé sur le pilote automatique, loin de là. En fait...
Ben, je sais pas, pilote automatique. C'est juste qu'il a, oui. il a donné un rôle qui était vraiment fait pour lui. T'sais, il ne oui. l'a pas mis en danger oui. quelque chose d'autre. Il joue un Pacino qu'on a quand même déjà un peu vu ailleurs, mais il fait bien. C'est, en tout cas, j'ai l'impression.
Écoute,
là.
Ouais. Écoute, c'est peut-être en relation, mais moi je trouve qu'il comme, fait plus comme, que bien. Il fait, en fait, à mon œil, il fait très bien.
C'est comme donner un rôle de good guy à Tom Hanks, mettons. Là.
Ouais, ouais.
Tom Hanks va vraiment bien jouer le good guy, mais tu sais. C'est ça
le
qui
Mr. Rogers.
Ben, c'est ouais, ça, le clin d'œil à Mr. Rogers. Mais...
là là.
C'est un peu ce mais... que je vois, mais tu sais, c'est sûr qu'il va être bon, là. En tout cas.
Mais puis sans entrer dans les détails, je veux juste peut-être finir sur un point que. Parce que. Bon, j'ai mes critiques. Je pense pas que c'est un film qui va même percer ma, pour ce que ça vaut, là, ma liste de fin d'année. Mais je pense que ultimement, c'est quand même une très bonne proposition. Mais encore là, elle doit exister un peu d'un souffle. C'est pour ça que l'idée même de la morceler dessert tout le monde, en fait. Je pense qu'il faut, être un petit peu essoufflé. Il faut rentrer dans la vie de ce bonhomme-là. Il faut que le temps fasse son temps. Tu sais, oui, prenez-le, le Christ, 3h30, je veux dire. je dis ça, puis je l'ai peut-être même pas fait. Là. Comme je disais, je l'ai fait écouter en deux shots. Mais... Je me suis quasiment mordu les doigts après ça. Je me suis dit, effectivement, si j'étais allé en salle ou juste si je m'étais bien disposé d'une shot à le regarder, j'aurais pas eu cette espèce de sentiment-là inassouvi après une heure. T'sais. Finalement, une heure sur 3h30, c'est quand même pas un gros pourcentage, bon, de un. Puis de deux, effectivement, ça reste du bon Scorsese. Puis là, je veux juste finir sur une note, c'est ce qui m'a là réchappé ultimement, ce qui a fait que maintenant, le film a regagné en noblesse à mon œil. C'est que c'est pas un Rise and Fall classique. C'est là où les Rise and Fall scorsésiens pouvaient tomber dans ben genre tu te fais tuer ou genre tu vas en prison ou blabla. Là, il y a beaucoup plus de remords, il y a plus d'intériorité, il y a une relation un peu même avec ses proches, je ne rentrerai pas dans les détails. Le regard des gens qui l'aiment par rapport à lui change et la prison, c'est un peu les autres, c'est un peu ses proches qui s'est aliéné d'une certaine façon. Puis je trouve que c'est peut-être le regard le plus mature que Scorsese a porté sur les gangsters qu'il aime tant, parce qu'il les aime, ces Christy gangsters. T'sais, il glamorise quasiment ce mode de vie-là. Il condamne toujours un peu, mais 90% du film, il glamorise d'une certaine façon.
Il y a du fun avec eux.
Il y a du fun avec eux.
Ils s'amusent, ils pètent des gueules, puis c'est humoristique. Là, C'est ça.
Dans Goodfellas, après ça, ils vont souper chez la mère. C'est la mère à Scorsese en plus. Puis genre, ils jokent sur le gars qui vient de tuer. Puis c'est drôle, mais en même temps, ça l'est pas du tout. Puis je trouve que dans ce film-là, sans rien révéler, c'est son regard le plus nuancé et le plus intéressant, je crois, sur les mafieux en définitive. T'sais. Les gens qui. Finalement, t'as une conscience, t'as des remords, puis c'est pas toi qui l'as. Inquiète-toi pas qu'il y a des gens autour de toi qui vont te le mettre ton miroir dans ta face, tu sais. Puis tu peux bien sortir de prison puis pas avoir été tué ou pas avoir été ci ou pas avoir été ça. Ça, tu ne t'en sortiras jamais. Pis je trouve que c'est comme un peu la parfaite conclusion à ces films de gangsters. Donc, je suis passé de genre, calice, Scorsese fait le même calice de film à, ah non, vois-tu, il m'a amené ailleurs. Puis chapeau, d'une certaine façon. Donc, c'est mon appréciation amour-haine de The Irishman. C'est un peu ça pour moi. En long et en large.
Et puis, d'ailleurs, pour ceux qui ne seraient pas au courant, parce que Netflix, c'est pas nécessairement la plateforme la plus simple à naviguer pour connaître tout le contenu, il y a également un supplément, une conversation à quatre avec Scorsese et ses trois acteurs fétiches qui est sur Netflix, qui s'appelle, je pense, The Irishman, A Conversation, quelque chose comme ça. C'est comme un espèce de bonus DVD, finalement, là, qui dure comme 20 minutes. Mais c'est bien sympathique. C'est toujours comme super impressionnant de voir ces légendes-là dans la même pièce.
Là, ben oui, c'est mon Dieu.
Donc voilà, le film est sur Netflix et c'est le meilleur film de l'année selon le National Board of Review qui a voté plus tôt. Un des indicateurs pour la course aux Oscars. T'sais, les ouais. tops un peu de fin d'année commencent à pulluler un peu fin d'année et fin de décennie.
Ouais, ça semble ouais. se jouer. On dit beaucoup de bien du film de Sam Mendes. Là. Il y a eu des pre-screenings ouais. pour les Oscars et.
Malheureusement, au Québec, ça va sortir en janvier. Donc, ouais, nous, je sais que nous, les critiques de cinéma de québécoise, la QCC, on n'a pas accès à ce film-là en particulier. Ah, okay, donc, il ne sera pas dans notre course à nous. Mais d'ailleurs, nous, on annonce les finalistes le lundi 9 décembre. Le prix du meilleur film international sera annoncé le lundi 16 décembre. Et le oh. film meilleur film québécois de l'année, ce sera dans le cadre des prochains RVQC en mars.
Mm-hmm.
Mais voilà, et puis au National Board of Review, une belle surprise, j'ai trouvé, mais j'ai pas encore vu le film. Là. D'ailleurs, ça, c'est un autre film qui n'a pas pris l'affiche à Montréal encore. Mais Adam Sandler, meilleur acteur de l'année.
Pour son rôle dans Uncut Gems. Un jour.
Ben, honnêtement, il a fait une coupe de bon rôle. Genre, faut arrêter d'y donner du.
Oui, je le sais, mais on le sait, là. Tu sais, c'est juste. Mm-hmm. C'est juste qu'il faut.
Puis, in safety, we trust. Je pense ouais. que c'est ça la leçon.
Oui, oui, puis j'ai vu...
Qui a gagné également le meilleur scénario, le film des frères Saadi, d'ailleurs.
Puis je suis dans un trip Noah Baumbach, là, surtout après mon histoire d'amour avec Marriage Story. Mm-hmm. Puis j'ai checké le Meyerowitz Stories.
Ah oui,
c'est pas mal bon, pour vrai. Puis Adam Sandler, il est vraiment excellent là-dedans. Là, tu sais. Puis tu sais, quel bon casting, lui puis Ben Stiller comme frères, là, on dirait que je... Mm-hmm. J'y crois, là. Ils peuvent tellement fitter comme dans leur dynamique. Mais ouais, il est super bon là-dedans aussi. Mais tu sais, ça, il y en a, là. Mais tu sais, il y a aussi Grown Ups 2 puis Jack and Jill, là. Tu sais,
il y a beaucoup de ça, là. Ouais. Mais moi, en fait, je suis triste que j'ai. Est-ce que nous allons avoir une occasion de voir Uncut Gems avant janvier ou pas? C'est quoi un peu son état à ce film-là?
Là, l'affaire, c'est que, apparemment, là, c'est un peu flou, la situation à Montréal, là, mais apparemment, Netflix Canada ferait une sortie du film. On ne sait pas encore si c'est avant la fin de l'année ou si c'est en janvier, mais comme le film sort il est présentement en salle aux États-Unis, dans quelques salles.
Ouais.
Et il est comme vendu sur Netflix dans plusieurs pays dans le reste du monde, je pense, ou presque. Puis c'est le Canada qui est un peu flou, là. Mais. Possiblement aussi que le film sortirait genre in extremis pour le vote de la QCC, on ne sait pas encore, j'ai comme pas eu de retour là-dessus, là, mais en tout cas, donc on espère, mais ouais, c'est un peu décevant. Ben, puis aussi, je pense que Good Times avait pas fait beaucoup d'argent à l'époque, fait que ouais, c'est un peu dommage, mais c'est des choses qui arrivent avec les aléas du calendrier.
Parce que je suis un petit peu, les gars, là. Un petit peu en manque de bons films pour compléter mon top 10. Je t'avoue que mon spot 9 et 10, là... C'est pas des mauvais films, mais je suis comme... Oui, je regarde mes autres tops, là, puis c'est l'année la plus... Ou du moins, il y a des très bons films. Je pense que mon top 3, 4, 5 même, il est comme... C'est vraiment, vraiment du bon stock. Je dirais que ça bascule vite. C'est comme si il y a quand même moins de profondeur à mon dans ce que moi j'ai vu, en tout cas, ne serait-ce. Là. Je sais pas comment vous, ça va, votre
concoctage de top 10? Moi, comme toutes les années, j'ai été un peu tata, puis à moitié de l'année, j'ai fait encore « Ah, il y a rien de bon qui est sorti, nanana. » Puis là, il y a eu le FNC, puis genre, il y a comme... Je pense qu'il y a 5 films dans le FNC qui se retrouvent dans mon top présentement. Puis après, j'ai vu The Lighthouse, désolé Pascal, puis Parasite. Back à back, puis tu sais, c'est comme ça s'est juste comme rempli vite là, mon top, mais j'avais pas grand chose en septembre, moi, dans mon top là, que je peux défendre solidement, là. Mais c'est, ça s'est rempli, puis tu sais, Irishman, puis espérons peut-être un ou deux d'ici la fin de l'année qui vont pouvoir topper ça. Là. Je vais essayer justement d'aller voir le portrait de la jeune fille en feu là, que tu as l'air justement en feu de défendre.
Ben oui, parce que là, Pascal, t'étais juré au FICFA.
Alors, ben oui.
Alors...
Donc, on n'en a pas encore parlé, c'est ça, parce qu'avec les enregistrements un peu disparates de notre podcast...
On n'a pas fait les nouvelles cinéma, là.
Ben non, là, vous m'avez coupé l'herbe sous le pied avec vos octogénaires gangsters, fait que j'étais comme parfait. Mais oui, donc, t'étais juré au FICFA, t'as eu l'occasion de voir plein de films et plein de productions. Absolument. Et votre jury, donc, a décerné le Grand Prix à Portrait d'une jeune fille en feu, quatrième long-métrage de Céline Sciamma.
Oui, ça, c'est à l'international. Puis au niveau québécois-canadien, c'est Questspan qui l'a remporté. On trouvait que c'était la proposition la plus... la plus honnête, la plus franche. C'est pas un film parfait, Quispan, mais je trouve que c'est exactement le film qui devait être fait au moment où il doit être fait, puis c'est parce qu'il n'y a pas deux chances de faire ce film-là. T'sais, tu l'as vu, Quispan, Paul? Fait que, aussi, je pense que ça devait être bien fait, parce que sinon, on recule en arrière. T'sais, ça vient avec une immense responsabilité. Ça vient avec tellement de pièges. Puis je trouve que ça les évite finalement tous vraiment adroitement. Je trouve que le film est un petit peu équis dans ses soubresauts dramatiques, t'sais, comme les pivots, puis les actes, puis où est-ce que ça crash, puis tel personnage y arrive, tel drame, puis là ça chamboule de telle façon. Bon, t'sais, je trouve qu'il y a un petit côté un petit peu trop bon élève dans sa construction scénaristique, qui est tout à fait pardonné par son humanisme, son honnêteté, son regard. Il y a vraiment quelque chose de beau, de frais dans ces personnages-là, dans ces inous-là qui nous sont présentés. On y croit, on a envie de les aimer, on les aime. Donc, Quispan au Québec. Mais vraiment, nous, c'est à l'international là, que j'ai été renversé, parce que j'ai vu pas moins de 3 films français, les 3, qui les 3 sont en fait de superbes films. Et je vais les nommer. Les Misérables de Ladjili. Vraiment très bien là, sur les, tu sais, dans les cités là, les banlieues bétonnées pauvres et tu sais parisiennes françaises et la violence qui s'ensuit autour de tout le film se passe sur un genre de 2 jours puis et on est du point de vue aussi de la brigade policière, donc je trouve que c'est un, on renverse beaucoup, tu sais, on est souvent dans la rue avec les gens de la rue, mais là, non, tu sais, tout à coup, ça nous force à voir le côté l'envers de la médaille des gens qui doivent, naviguer la jungle de béton et de la mener de main de fer. Fait que ça, c'est Les Misérables, si vous aimez ce genre de film qui évoque un peu la haine, peut-être, de Kassovitz. Mais 2 gros coups de cœur, un pour Atlantique de Mathis Diop.
Qui est d'ailleurs, là, il est disponible sur Netflix, parce que là, Netflix aussi a racheté les droits de ce film-là.
Vraiment très beau, vraiment un très beau film qui jongle avec les genres, avec les tons.
Et puis c'est drôle, hein, ça c'est 2 films, excuse-moi, mais ça c'est 2 films en fait qui sont comme des prolongements / adaptations de leur court-métrage du même nom.
Oui, c'est vrai.
Que les 2 cinéastes ont fait, un peu comme Whiplash aussi. Là.
Oui,
donc,
oui,
c'est toujours le fun, ces films-là, que tu as un cours qui a eu du gros succès, puis là, après ça, on a l'occasion, le cinéaste a l'occasion de comme en faire une œuvre plus imposante.
Puis Atlantique, hein, je veux dire, c'est le premier long métrage de Mathis Diop, mais ça arrive avec une maîtrise, puis avec. On dirait qu'elle savait exactement ce qu'elle voulait faire et elle l'a fait exactement la façon comment qu'elle voulait le faire, puis c'est comme ça que ça nous est présenté. Il y a comme quelque chose de très pur, une vision artistique forte, bold, d'une cinéaste franco-sénégalaise. Non, c'est vraiment super. Puis même, ça flirte un peu avec le film d'horreur, d'esprit, mais d'une façon ça évoque un peu les films japonais des années 50, là, où l'horreur est très... où les films de fantômes, mais très minimalistes. On pense peut-être à un genre de Ugetsu de Kenji Mizoguchi, ou on pense peut-être à Kwaidan de Masaki Kobayashi, où il y a des films de Kaneto Shindo, un peu, qui faisait des... C'est comme une façon de voir l'au-delà, les esprits, les specs, les zombies même, quasiment. Là. Okay. Mais d'une façon minimaliste et franchement intéressante, en fait. Comme quoi, on n'a pas besoin de millions de dollars là, un peu pour vendre des idées fortes dans le fantastique.
Donc, un possible bon doublé à faire avec Zombie Child de Bonello.
Ah ouais, peut-être, ouais, c'est vrai, de Bonello. Mais un mot, en fait, sur Portrait de la jeune fille en feu. C'est un chef-d'œuvre.
Parce que moi, en fait, c'est drôle.
C'est le film de l'année.
Je l'ai vu.
L'un des films de la décennie, à mon humble avis.
Mais c'est drôle parce que moi, j'ai pensé à toi, en fait, quand que j'ai vu le film. J'ai vu en ouverture de Cinémania, à l'Impérial. Je veux dire, quelle bonne condition pour voir un film. Et le pitch, en gros, c'est quoi, 19e siècle ou 17e siècle, 18e, en tout cas. Bref, film d'époque.
En fait, on s'en fiche. En fait, on s'en fiche parce que ça transcende tout à fait le film d'époque. Mais vas-y, Paul. Je te laisse quand même finir.
Oui, mais bref, c'est ça. C'est un film donc sur une peintre qui est engagée pour faire le portrait d'une jeune bourgeoise. Un peu à son insu. Là, tu sais, bon, ça, c'est comme le début du film. Et c'est vraiment un film donc sur la relation entre un artiste et sa muse, dans un sens. Là. C'est beaucoup là-dessus. Et D'un, je pense que c'est un des films sur la peinture qui est vraiment intéressant, parce que c'est quand même un médium qui est dur à transposer, là, selon moi, au cinéma. Et de deux aussi, c'est que, c'est ça, je me disais, tu sais, comme je pensais à toi, parce que je me disais, en tant que cinéaste, il me semble qu'il y a quelque chose là, tu sais, entre un peintre et un cinéaste, l'écart est vite franchi, puis je me disais que il y avait de quoi de le fun. Tu sais, la scène dans Titanic, là, où Léo va peindre Kate Winslet, là, ben, c'est un peu ça pendant deux heures, là, tu sais, bon, là, j'exagère, puis je réduis à peu de choses, là. Mais il y a cette relation-là, vraiment, entre créateur et muse et sujet, qui est vraiment intéressante et assez fascinante, puis à quel point, tu sais, entre le désir et l'art et la beauté, puis l'amour, puis l'attachement, puis le simple travail, tu sais, les nuances parfois sont assez troubles.
Oui.
Surtout peut-être à une époque où justement les relations, ben non seulement entre classes, mais du même sexe ne sont pas vraiment pas bien vues. Mm-hmm. Donc, il y a comme. C'est un film qui vient jouer sur plein de niveaux intéressants, puis plein de thématiques intéressantes. Au-delà, en plus, de toutes ses qualités formelles, de ses qualités de jeu, de montage. La seule chose, c'est que, bon, toi, t'as l'air vraiment à être subjugué par le film.
Vas-y, je t'entends, mais je t'écoute pas, là, mais je t'entends, vas-y. Sors les critiques, je déballe tes critiques. Non, je te taquine, vas-y.
Non, mais j'avoue que Adèle Haenel, j'ai eu un petit peu de la misère avec son jeu, avec ses choix de jeu. Okay. Parce que j'ai trouvé qu'en première moitié du film, puis là, on va essayer de rester vague pour pas trop dévoiler, mais elle joue, tu sais, la bourgeoise un peu ingénue, qui a assez peu d'expérience de la vie, parce que finalement, la vie de bourgeoise, c'est aussi de rester dans sa propre case, puis de pas se mêler au peuple, tu sais, puis je trouve qu'elle jouait gros, là, puis c'est sûr que c'est son personnage d'être un peu la naïve, tu sais, qui a pas vécu la vraie vie, entre guillemets.
Ouais.
Mais une couple de fois qu'elle m'agaçait, mais tu sais, est-ce que c'est son jeu, est-ce que c'est le rôle, la manière qui est écrit ou la manière qu'elle est dirigée? Et une fois que le film embarquait, puis que les personnages évoluent quand même, il y a des arcs narratifs, tout ça.
Oui, oui, oui.
Je trouvais que ça allait beaucoup mieux. Puis, vers la fin, c'était vraiment pas un problème. C'est juste qu'au tout début, ça m'a un petit peu agacé, puis je me demandais est-ce que c'est la bonne actrice pour jouer ce rôle-là. Mais, à mi-parcours, j'étais comme, OK, parfait. Très bon casting, puis j'aime le film.
Tu veux-tu t'en compte une bonne? Parce que la veille, j'ai vu Le Bain, aussi dans le cadre de mes fonctions de jury au FICFA, puis elle joue dans Le Bain. Puis le lendemain matin, on la revoit littéralement dans le film suivant, dans Portrait de la jeune fille en feu. T'sais, on pourrait pas avoir plus opposé.
Ah ouais, c'est turbo!
C'est merveilleux, là. C'était vraiment comme genre, oh wow. Mais c'est son année, puis en plus, c'est son année même au niveau, c'est peut-être une discussion tristement d'actualité, là, mais tu sais, je veux dire, elle secoue complètement, il y a un relent de la vague MeToo dans le cinéma français, là, vraiment, puis Adèle Haenel en est vraiment c'est l'épicentre en ce moment. Bon, je ne veux pas nécessairement rentrer dans les détails de ça, mais pour plusieurs raisons, on sent que c'est un peu son année, peut-être, quand même. Je t'entends, je pense pas que... Puis tu sais, moi, je peux défendre le film sous toutes ses coutures, mais je t'avoue que non, c'est pas un film que, genre, je donnerais pas tous les trophées ever, là, à elle spécialement. Je pense que c'est un film qui brille dans la relation, tu sais, comme tous les bons... ou comme la plupart des bons films d'amour, hein, finalement, parce que c'est quand même ce que c'est à la base. Puis l'autre comédienne, puis ni même l'autre comédienne, c'est ça qui est surprenant, c'est que leur chimie est définitivement plus forte que la somme des parties. Tu sais, elle s'appelle Noémie Merlant, la comédienne qui joue la peintre. Puis tu sais, elle est très bien, là, vrai, définitivement, mais je pense que ce qui est doublement beau, c'est pas Noémie Merlant, c'est pas Adèle Haenel, c'est l'espèce d'invisible entre les deux, c'est cette espèce d'étincelle-là. Mais une étincelle tout à fait pudique. Puis en fait, c'est ça, moi, disons, mettons que j'essaie de distiller là, le plus simplement possible mon amour de ce film-là, c'est le film que je ne savais pas que j'avais besoin en 2019. Je vais le dire comme ça, c'est un film d'amour pudique, très pudique même. C'est un film qui, mon Dieu, on dirait que on a envie de redevenir romantique, tu sais. C'est quasiment transformateur en ce sens. Je trouve que c'est vraiment un antidote. C'est comme si, à le fait de ce film-là, Céline Sciamma, elle omet toute politique. Elle transpose ça au 18e siècle en Bretagne. Elle fait un film d'amour homosexuel aussi, bon. Puis c'est comme si elle fait tout ça, mais elle déborde de tout ça. Tu sais, elle parle, l'amour devient A majuscule. Il y a comme, on n'est plus dans un... Moi, pour moi, là, quand je parle de Portrait de la jeune fille en feu, j'en parle pas d'un film d'époque. Puis en plus aussi, les choix de mise en scène sont assez audacieux. Je pense pas qu'elle a essayé de faire de quoi de rétro. Même c'est assez moderne, comment qu'elle cadre, comment qu'elle elle filme, le montage, le rythme, tout ça. C'est définitivement plus qu'un film d'amour LGBTQ+, d'une certaine façon. Puis c'est très beau en ce sens. C'est un beau porte-étendard de ça, mais on est tellement pas confiné à ça non plus. Je pense que... Ça peut être toutes les formes d'amour. En tout cas, je rentre dans les hyperboles déjà. Là. On dirait que je déconstruis toute mon appréciation et ma critique. Mais moi, vraiment, je suis sorti de là puis j'étais bouleversé. Puis j'avais juste envie d'appeler mes proches, ma blonde, les gens que j'aime pour leur dire « je t'aime ». Quand le cinéma peut faire ça, on est en présence de grand art, je crois. Puis ça a fait ça. Céline Sciamma, écoute, c'est un 4 en 4, mais les trois autres, c'était tous des films que j'aimais bien. Je pense qu'elle n'a jamais fait de mauvais films, mais là, tout à coup, on est dans vraiment un autre niveau. C'est un délice de mise en scène parce que le film est complètement abandonné au rythme. Le rythme intra-scène et intra-plan aussi. Puis ça, moi, ça me parle énormément comme créateur, tu sais, de trouver la musicalité d'un plan dans le plan, puis ensuite dans l'arc global d'un récit. Ça, elle le fait, mais de doigt de maître. Et au final aussi, tu parlais de classe, ça aussi, ça transcende ça. On n'est pas non plus empêtré dans « Ah oui, un film d'amour au 18e siècle, ah, la peintre avec la bourgeoise, il doit avoir des interdits entre les classes et aussi par rapport à l'homosexualité. » Non, en fait, c'est ben oui, mais de façon en filigrane, finalement, c'est vraiment pas ça le cœur du récit. C'est voilà, en tout cas, c'est écoute, spoiler, là, c'est mon film de l'année, puis c'est top 5 décennies pour Pascal Plante. C'est un chef-d'œuvre complet, total. Puis, à mon très humble avis.
Puis il y a vraiment.
Et ce
quand
plan
même
final, des... et ce plan ouais. final, Paul, putain.
Ouais, on n'en parlera pas, là, on dévoilera pas rien. Mais oui, une finale. Vraiment marquant. Je pense qu'on va s'en rappeler longtemps.
On parle-tu de The Lighthouse, là, le plan final? Je reviens sur la conversation si on parle de Lighthouse. Là.
Bravo, Rémi.
Portrait du phare en pluie. mais également, tout le travail en fait, de caméra à l'épaule, je trouve qu'il est vraiment remarquable dans ce film-là. Puis c'est vraiment, je trouve qu'il y a eu vraiment des excellents films. Ça m'a marqué cette année, des films de caméra à l'épaule. Ce qui peut sembler anodin comme constatation, mais je trouve que c'est un art qui est vraiment difficile à maîtriser, puis c'est facile de se planter, puis c'est rare que des films... Tu sais, comme il y a des plans où on suit justement le personnage d'Adèle sur le bord d'une colline, ou peu importe, puis là, des fois, elle va se retourner pour la regarder, puis c'est des plans genre tellement beaux, là.
Oui, absolument.
Les deux autres films cette année, je pense qu'ils ont vraiment des utilisations de caméra à l'épaule remarquables, c'est synonyme. Pour ceux qui l'ont vu,
Nadal. D'ailleurs, aussi, je ne sais pas si vous voulez en parler.
Je suis pas le plus gros fan nécessairement plus, du en fait, film.
Ours d'or à Berlin, hein, quand même, on peut le dire.
Ouais. Mais ouais, c'est un acteur central qui a une performance tout à fait bestiale, énergique et frondeuse. Je pense que Tom Mercier va être là pour un bout. Là. Ouais. Puis vraiment, c'est ça. Moi, je pense que c'est le directeur, ben, même pas le directeur photo, c'est l'opérateur caméra dans ce film-là qui est selon moi la vedette. C'est vraiment son utilisation du zoom, puis l'utilisation frénétique du cadre
qui démarque, c'est ça, comment la caméra bouge dans l'espace, sa façon d'explorer l'espace.
Ouais, une espèce de plan de danse dans un bar là, qui moi, m'a vraiment marqué cette année. Pour moi, c'est un des plus beaux plans de l'année. Puis ceux qui l'ont vu vont le savoir, tu sais. Très rapide de synonyme, en gros, c'est ça. C'est un Israélien... en plus, c'est drôle parce qu'on en avait parlé. J'avais fait une classe de maître avec Nadal Vlapid au FNC il y a quelques années et on parlait de ce film-là, justement, qui était en cours d'écriture. Puis c'est comme, bon, un peu semi-autobiographique. Un Israélien qui s'enfuit à Paris qui est un peu... essaie de réfuter sa langue, sa culture, puis veut devenir un simple Français, puis se lie d'amitié. Il y a déjà des amis français, puis il va vivre un peu dans l'instant présent. T'sais, c'est vraiment un film, c'est quasiment carpe diem le film, là. C'est un peu comme se promener dans les rues de Paris, apprendre la langue, un peu comment tu décrirais ça, Pascal, comme film? C'est un parcours assez spécial, là, comme...
Non, c'est ça exactement. Le personnage, il arrive, c'est très mystérieux, un peu sans le sou, comme ça, à Paris. Il est extrêmement francophile, mais tu sens que c'est aussi, ça cache quelque chose. C'est vraiment pour fuir qui il est, là, vraiment, puis sa culture, puis comme même sa langue. Il refuse de parler en hébreu et tout, bon. Et puis là, c'est ça, mais il y a quelque chose de... On n'est pas dans du réalisme brut, là, vraiment pas. Je pense qu'il y a une stylisation au niveau du jeu, au niveau des échanges, des rapport. Le personnage masculin français, là, chez qui il retentit, il s'appelle Quentin
Dolmer. Oui, Quentin Dolmer, oui. Très bon acteur qu'on avait vu dans le « Trois souvenirs de ma jeunesse ».
Ouais, c'est ça. Il avait joué chez Desplechin, comme ça, bon, bref. Et comment je le décrirais, tu sais, puis finalement, c'est un peu comme si le personnage, il peut, en voulant fuir à tout prix qui il est, finalement, il se fait un peu rattraper par ça, puis il devient de plus en plus peut-être erratique, puis incohérent dans son rapport, puis évidemment, on n'en révélera pas trop. C'est ça, Ours d'or à Berlin, je veux dire, définitivement, je pense que c'est peut-être un film quand même très européen, pour le meilleur et pour le pire, là, je pense que ça va peut-être plus parler à des gens en Europe.
Mais je crois aussi que c'est un film qui s'apprécie dans la constance, puis dans l'œuvre totale de Nadav Lapid, parce que dans un sens, c'est quasiment l'explication de qui il est lui-même en tant que cinéaste.
Peut-être, oui.
Puis dans le kindergarten, en tout cas, la professeure, je ne me rappelle plus du film exact. Mais on avait encore un jeune homme de comme 4 ans qui se mettait à faire de la poésie. Puis tous ces films parlent un peu de lui et de son œuvre. Donc, il y a tout ça aussi, je crois, qui vient jouer dans l'appréciation, notre niveau de familiarité avec son œuvre.
Peut-être, oui. Mais bon, hein, moi, ça n'a pas été un coup de cœur très, très franc, là, je dois t'avouer. Je l'ai trouvé même assez ardu par moment. Puis pas ardu, pas un ardu plein, puis cinématographiquement toujours riche. Là. Des fois, j'étais comme, je comprenais pas vraiment la causalité. Tu sais, comme pourquoi le personnage agit de cette façon-là, pourquoi tel personnage secondaire se pointe à ce moment-là. Tu sais, comme il y avait une genre d'incompréhension slash incohérence, là, je trouvais ça filait un peu bordélique, là, ces bords au niveau scénaristique, puis j'imagine que tout se défend au niveau intellectuel, parce que c'est clairement pas un 2 de pique, mais je l'ai quand même trouvé très hermétique puis difficile d'approche, là, au niveau... C'était difficile, là, de ressentir de l'empathie pour toute la galerie de personnages qui m'étaient présentés dans ce film-là, puis c'était... Ça m'a un peu empêché de l'aimer, je voudrais dire. Mm-hmm. Mais bon. Qu'avons-nous d'autres au menu, les chums, là? Colin, le temps file.
Hey, les activités, les actualités de cinéma, Paul, je veux savoir ce qui se passe à Montréal. Je pense qu'il y a 50 minutes, on aurait dû faire ça, mais on est parti sur Irishman.
Non, c'est ça.
Non, mais je vais juste finir, en fait, avec troisième film, qui a une caméra exceptionnelle cette année, caméra à l'épaule, c'est Hidden Life de Terrence Malick.
Ah, j'ai pas vu ça.
Et un autre gros film de. Moi, j'ai fait un peu sur Facebook une petite blague aujourd'hui, là, sur mon statut, parce que je comparais un peu Irishman puis Hidden Life, parce que c'est les deux films, c'est une espèce de gros film de 3 heures de cinéaste septuagénaire américain légendaire. Là,
ouais, absolument, ouais.
Et c'est drôle quand même, tu sais, de penser à un film comme Hidden Life qui vient clore la décennie après que Malick l'est ouvert de quelle façon avec Tree of Life, tu sais?
Ben, et la Palme c'est peut-être d'or, l'un des films les plus influents de la décennie, Tree of Life. Tu sais. Mettons qu'on est en rétrospective, là.
Influent
ça ou marquant? Ça se défendrait, ça, comme argumentaire, je pense.
Je sais pas s'il y a eu tellement d'influence que juste un grand film unique, là.
Mm. Ouais, mais The Artist. The Artist. Je suis juste ça pour troller, moi.
Non, mais tu vois ce que je veux dire, tu sais, même, en fait, c'est que je trouve que c'est la décennie où Malick s'est même fait un petit peu ressentir jusque dans le cinéma quasiment sundancien, là, tu sais, le indie américain. Ouais, tu sais, un film comme Beast of the Southern Wild, Ben Zitlin est une voix très forte, hein, je dis pas le contraire, mais je trouve quand même que même dans des films comme ça, t'es comme le spectre de Terrence Malick est jamais bien loin. Puis il y a vraiment... Ça en devient quasiment un sous-genre, tu sais. La façon de traiter la fluidité aussi, de la caméra, puis... le voice-over, le côté un peu évanescent, le temps temporel, flottant, c'est plus que jamais, parce que c'est pas la première fois que Malick fait ça, il le fait depuis Days of Heaven, tu sais, même quasiment depuis Badlands, mais ça s'est radicalisé avec Tree of Life, puis on dirait que c'est dans ces moments les plus radicaux que peut-être il a inspiré le plus de gens, je pense.
Mais j'ai quand même l'impression qu'on en voit moins, mettons, que tu sais, quand il y avait eu Pulp Fiction, ou quand il y avait certains gros films comme ça qui viennent vraiment, puis peut-être parce que c'est dur aussi, parce que en fait, Hidden Life, donc, qu'est-ce que ça raconte? C'est en Autriche, dans un petit village de quelques milliers d'habitants, Ragedund. Il y a un couple de fermiers qui vit paisiblement. Et jusqu'à temps que la Deuxième Guerre mondiale éclate, on est en 39. Et là, les Autrichiens sont un peu sommés de participer à l'effort de guerre nazi. Bon, ça divise un peu les gens, tout ça. C'est un récit qui se passe sur plusieurs années. C'est une histoire vraie, d'ailleurs. Mm-hmm. Et cet homme va un peu s'opposer. D'abord, en ne se portant pas volontaire. Et lorsque la conscription devient obligatoire, il va donc y aller, un peu de recul, mais il ne va jamais prêter allégeance à Hitler. Et ce qui va donc lui causer de graves ennuis. Donc ça, c'est un peu le pitch de base. Je ne vous raconterai pas plus, puis je vous conseille peut-être, si vous voulez
mais
le
moi,
voir,
je veux vraiment le voir comment sur, tu l'as vu, toi, c'est parce que tu as eu un screener avec l'accès.
Oui, c'est ça.
Coquin.
Oui, tout à fait, ça sort à Noël. Il jouait également au FNC.
Fait que si vous voulez une copie, guys, vous écrivez à Paul Landriot sur Facebook, il va vous faire parvenir un lien gratuit.
Bravo.
Non, faites pas ça.
Tout à fait.
Faites pas ça.
Mais c'est ça, il jouait aussi au FNC, puis moi, j'ai goût d'aller le retourner en salle, là, parce que c'est, tu sais, des films de Malick, là, vraiment. On parlait de rythme tantôt avec Irishman, puis à quel point c'est un commitment. J'ai l'impression que ça, c'est encore plus intense. Et si vous avez jamais vu de film de Malick, là, puis vous n'êtes pas sûr, là, je pense pas que c'est le meilleur film pour embarquer. Si vous aimez Malick, mais que ses derniers films vous ont laissé un peu coussi-coussa depuis Tree of Life, dans le fond, là, puis sa nouvelle vague de films un peu encore plus poétique, encore plus fragmenté, c'est pas le film qui va vous réconcilier avec lui. Malgré que ce film-là soit quand même plus linéaire, plus simple aussi.
Puis je pense que c'est. Même les détracteurs vont avouer que c'est un film plus réussi que tout ce qu'il a fait post-Tree of Life, là. T'sais, je veux dire, Into the Wonder, Night of Cups, ben, c'est quoi l'autre, Song to Song, peut-être?
Non? Ouais, puis Voyage of Time, son documentaire. Ben, écoute,
ah oui, c'est vrai.
Moi, je te dirais que... Ben, on a tous un peu des avis différents, mais Night of Cups, j'avais trouvé ça franchement bien pour vrai.
Ouais, ouais, puis, c'était son meilleur de cette vague-là, à mon œil aussi, ouais.
Puis Hidden Life, le truc, c'est que c'est moins peut-être complexe, puis ça touche à peut-être moins de choses qu'un truc comme Tree of Life, qui reste quand même un film incroyable. Là, c'est très, c'est une tragédie, puis c'est très one note, puis on est pendant la guerre, puis évidemment, c'est un film lourd, tout ça. Mais c'est vraiment, si vous appréciez son œuvre, puis c'est la manière qu'il a de... Vraiment, c'est le montage. Tu sais, peut-être plus qu'un grand cinéaste, peut-être un grand monteur, Malick, même si c'est pas tout le temps lui qui va monter lui-même.
Un chef d'orchestre de monteur au pluriel. Là. C'est vrai. tu sais pas trop, ça a l'air d'être une usine à monteurs là, qui crée les délires de Malick.
Puis, tu sais, dans le fond, c'est réducteur de parler juste de montage, parce que c'est aussi l'écriture de cette narration qui est chuchotée, qui passe... Tu sais, il y a plusieurs narrateurs dans ce film-là.
Puis maintenant, il doit tourner avec son montage en tête, donc tu sais... Ça devient total. Je pense que c'est pas juste du montage.
Non,
c'est le montage, c'est une des premières choses qui va un peu attirer l'attention, je pense. Là. Ouais. Mais moi, j'ai l'impression qu'en date d'aujourd'hui, il sait exactement ce qu'il fait. Ou il sait exactement comment il va vouloir explorer au montage. T'sais. Puis il tourne en conséquence.
Oui, c'est ça. Puis tout en fait, si vous avez écouté un peu des documentaires sur ces films, c'est que il y a vraiment une façon de tourner qui est propre à lui-même. T'sais. Puis comme c'est un film qui se rappelle beaucoup de New World, dans le sens qu'on est comme dans un village, on prend des fragments un peu des gens à gauche puis à droite, des événements, tout ça. Ça se passe sur plusieurs années.
Moi, c'est mon Malick préféré hein, de New World. Fait que moi, tout ce que tu me dis, ça me parle.
Ouais. Non, mais c'est très, très bien. Puis le directeur photo, cette fois-ci, c'est pas Lubitsky, mais c'est tout comme, en fait. C'est le caméra l'opérateur caméra depuis The New World qui s'appelle Jörg Widmer. Qui travaillait donc avec Lubeski puis toute l'équipe, qui a pris donc la relève et qui a été le directeur photo pour ce film. Puis c'est d'une beauté à couper le souffle. Tu sais, je vous mets au défi de trouver un plus beau film que ça cette année. Je pense que c'est impossible de voir cette décennie quasiment. Là. C'est vraiment un travail sublime. Mais ensuite, il faut être ouvert à ce genre d'expérience-là qui est très contemplative. C'est facile de parodier puis de pasticher un film de Malick.
Ceux qui ont décroché ont déjà décroché. Je pense rendu là, Malick.
Tout à fait.
Ceux qui ont envie de rire un peu de ça,
puis
doivent encore avoir de la matière à rire un peu de ça.
Hey, moi, j'ai vu aucun film de Malick depuis Tree of Life.
Ah ouais,
fait que vous en parlez, puis je suis comme dead, complètement derp. Un jour, je vais peut-être avoir un trip, je vais tous les rattraper en une semaine. Mais ouais, c'est pas demain.
mais non, il faut, c'est ça, c'est l'anti-cinéaste que tu binges. Tu peux pas te taper toutes les maniques après l'autre comme si c'était un défi. Là. Parce que c'est ça, c'est comme des narrations chuchotées à coup de comme 5 mots à chaque 30 secondes. T'sais. Puis là, ça, on touche au sublime, on touche au religieux. Puis tu sais, avec des musiques classiques incroyables. T'sais. Puis... C'est le genre de film, il faut vraiment être dans une ambiance particulière. T'sais, un peu comme un Tarkovski, comme un Bergman. T'sais, ces cinéastes-là qui nécessitent quand même, qui requièrent un certain niveau de d'attention puis de dévotion. Parce que, tu sais, du Bergman, là, t'écoutes pas ça en faisant le ménage puis en riant comme si c'était... T'sais.
Non, non.
C'est la même chose pour un Malick. Puis peut-être pour Irishman, t'sais, je l'ai pas vu, mais c'est des films qu'il faut se mettre dans un certain état d'esprit. Et si ça vous branche, ben, allez voir Eden Life, vous serez absolument pas déçu, mais vous serez pas converti si déjà vous avez décroché.
Là, tu parles de Tarkovski, tu parles de Malick, tu parles de Bergman, mais nous, on a vu le plus important. Il nous reste un film à faire. Il faut qu'on jase d'un dernier film. On a vu du Aja.
Oui, récemment. Alexandre Aja.
Qu'avons-nous vu?
Un film avec beaucoup de mordants, comme on dit.
Ah, bravo, bravo.
C'est, on a vu Crawl. On a vu ça ensemble. Crawl. On regarde pas on des films souvent ensemble. Puis là, on a vu Crawl ensemble. C'est quand même un drôle de choix, là, mais en tout cas...
Écoute.
Qui est quand même dans le top 10 des films de Tarantino, ça liste ça? C'est Tarantino?
Ou que je pense que Tarantino, il a dit que c'était le meilleur film qu'il a vu cette année.
Oh, mais calme-toi, Tarantino, là. C'est sérieux, calme-toi, là.
Ouais. Bon. Mais John Waters a dit que c'était Climax numéro 1 et Jeannette, le deuxième Jeannette numéro 2.
Ouais, que... Jeanne. Ouais. Blague à part, en fait, ben, blague à part ou pas, là, parce qu'on peut, en joker aussi un peu. Là. Oui, on a vu Crawl d'Alexandre Aja, quand même.
Mais qu'est-ce que tu veux dire là-dessus? C'est comme. Je sais pas trop quoi dire là-dessus.
Ben écoute, le synopsis, on va faire le synopsis.
Mais attends, avant même de parler du film, là, moi je suis curieux, Rémi, parce que tu sais, toi, Rémi, qui est un gros fan d'horreur, puis que tu sais, qui collectionne un peu ces films-là. Pour toi, Aja, là, dans ton univers personnel, là, à quel point tu le respectes? À quel point c'est un cinéaste intéressant? Ou est-ce que c'est juste comme quelqu'un qui profite et qui copie les codes américains? Comment tu le considères?
Ben non, en fait, ben, tu vois que c'est un passionné qui justement, ben, il copie pas. Je pense qu'il va juste... il va fitter dans les codes parce que c'est ça son cinéma depuis le début. Je pense qu'il est assez important parce que c'est lui qui a comme été dans les premiers à starter la vague de nouvelle horreur en France. Là. Il y a eu plusieurs cinéastes qui ont popé des années 2000. Lui, c'est avec Haute Tension, qui est un bon film jusqu'aux 15 dernières minutes, je dirais. Là. Il y a comme ending épouvantable à la fin qui gâche un peu le film, je dirais. Je vais oser dire ça.
Ouais. Tu sais qu'il était vraiment jeune, hein? Il avait 25 ans quand il a fait autant.
Ouais, ouais, c'est fait avec très peu, puis c'est vraiment bien réalisé. Mais moi, je dirais même que son meilleur film, c'est quand il y a eu un budget américain juste après. Il a fait le remake de Hills of Eyes, puis c'est vraiment bon, là, le remake de Hills of Eyes, puis c'est de l'horreur assez trash. C'est une famille qui se font torturer par des espèces de co-sanguins là, dans le désert. Là. Mais au lieu de juste prendre le film de Wes Craven puis le remaker, ben, il a comme expand un peu cet univers-là. Il a donné un peu de background aux méchants. Puis il a mis des scènes vraiment trash là, pour du cinéma des années 2000. Fait que je dirais que c'est pas mal son meilleur film jusqu'à maintenant.
Ça c'est avant de prendre les rênes de Piranha 3D.
Piranha, il a fait Horns avec Daniel Radcliffe qui est très bizarre. Là. Je sais même pas si c'est bon. Là. Tu sais, je l'ai vu, là, mais c'est dur à qualifier là, comme film. Là. Puis ben là, Crawl qui arrive, qui est. Écoute, je pense que c'est juste. Il se fait du fun, puis c'est ça qui est le vrai trip dans ses films, c'est d'avoir du fun avec lui qui prend les codes, qui est déconstruit, qui fait un peu ce qu'il veut avec. Parce que Crawl, c'est assez simple, c'est assez drôle, en fait, ça se retrouve dans des tops, parce que le film remplit bien ses mandats, mais ça reste que c'est un film de crocodile, là, ben d'alligator,
ouais, c'est ça. Là. Fait qu'en gros, en gros, on va faire un synopsis visite, là, parce qu'on s'éternisera pas quand même sur Crawl, là, je pense pas qu'il y ait 36 000 affaires à dire. Mais déjà, hein, c'est peut-être parce que moi j'ai la face.
Mais la narration chuchotée dans Crawl, Pascal.
Ah oui, c'est vrai, la poésie de ce film transcende. Non, ok. Non, en fait, j'ai été assez surpris de voir que déjà le film commence sur des scènes de natation assez legit. Puis tu sais, moi j'arrêtais pas de dire comme parce que là moi j'ai la face dans un film de natation, tu sais. Puis j'arrêtais pas de dire à tout le monde, ouais, il y a pas vraiment de films de fiction, tu sais, qui ont bien filmé la natation. Puis là là il va falloir que je mette
un astérix
à ça. Parce que c'est legit, en fait, les scènes de natation dans Crawl, même que, tu sais, ça va jusque, tu sais, les figurantes nageuses, ils ont le bronzage de maillot d'entraînement. Là, tu le sais que c'est des vraies nageuses quand ils ont le bronzage de maillot d'entraînement, pour vrai. Des petits détails comme ça, puis j'étais comme, shit,
c'était legit. Parce qu'en fait, ça vient un peu définir le personnage principal.
Oui, absolument, absolument. C'est ça, c'est une athlète.
Fait qu'Alexandre rajoute a shifté, dans le fond, là.
Ouais, mais non, mais tu sais, vraiment, parce que Crawl, évidemment, on réfère aussi, ben tu sais, on réfère à ramper, mais on réfère, au style de nage en natation.
Ouais, c'est bien placé, là. C'est une nageuse, donc tu sais qu'il
va prendre
une scène de nage à manier. Son père, c'était son entraîneur quand il était jeune, fait que tu sais qu'il va avoir quelque chose avec ça. Il y a une belle scène au début du film où ils sont comme dans le locker room, puis elle parle au téléphone à sa sœur, hein, puis là, il y a comme une exposition, là, complète là, de toute la situation familiale.
C'est vraiment lame, tout
au téléphone, là, pis c'est comme, ok, le film est placé, à cette heure, on s'en va chez le père, là c'est parce qu'en fait, le père répond plus, pis
il y a un ouragan qui arrive,
pis là, il faut qu'elle aille chercher son père, elle aille voir qu'est-ce qui se passe.
Puis ensuite, ben,
Aja, on va lui donner ça. T'sais, c'est que c'est un passionné, comme tu le disais, Rémi. Il se fait produire par Wes Craven, par Sam Raimi. Puis, tu sais, il est économe, là. Tu sais, il sait c'est quoi que le spectateur attend, puis il va pas te faire languir, là. C'est le Spielberg fast-food, là,
maintenant. En même temps, les alligators, on avait checké le time. Tu sais, c'est un film de 88 minutes, là, puis les alligators arrivent à genre 29 minutes, 30 minutes. On avait checké le timer, là. Tu sais, je commençais à avoir hâte à m'amener. Puis, mais bon, c'est ça. Que dire, ça ferait ça?
C'est une fille, beaux alligators en image de synthèse. L'ouragan
arrive à être avec son père dans la maison, puis c'est comme un huis clos, un peu comme un get, ouais. Pas un get, ben, get out un peu, mais comment ça s'appelle?
Panic Room, peut-être.
Pardon?
Panic Room.
Un peu comme le film Don't Breathe de Fede Alvarez, il y a une couple d'années, où c'est un bon thriller, mais ils ont réussi à tout compacter dans la maison, puis il y a de la très belle réalisation, c'est vraiment bien mis en scène, mais on limite les espaces, puis on essaie de tout construire là-dedans. Fait que c'est un peu ça, là, on utilise la maison, ses alentours, puis avec l'ouragan, avec l'eau qui monte, puis là, ben, y a de la grosse tension, parce que tu sais que bientôt, ils seront sous l'eau, où ils se feront avaler par les vagues ou par les alligators.
Mais tu sais, moi, la seule affaire intelligente que j'ai à dire de ce film-là, là, ou semi-intelligente, c'est que ça utilise les shots sous-marines d'une façon narrative, puis franchement intéressante. Tu sais, là où il y a beaucoup de films que, ben, parce qu'on est dans l'eau, ben oui, on va filmer dans un caisson rigide, puis on va filmer sous l'eau, ben parce que, tu sais, ça donne la production de value. Tu sais, pour moi, ça, c'est aussi intéressant que de mettre un drone parce qu'on va mettre un drone, là, tu sais, je veux dire, pour moi, ça a quasi pas de valeur, là. Mais dans Crawl, en fait, des fois, effectivement, on fait le classique jazz POV, là, tu sais, on est comme un peu du point de vue d'un alligator. Bon, ça peut fonctionner. Mais il y a aussi que, souvent, mettons, le personnage va aller sous l'eau, ça fait un peu jeu vidéo, là, tu sais, genre unlock telle affaire ou je sais pas quoi, là, peu importe. Mais c'est comme si il y a finalement assez peu de plans gaspillés sous-marins. Ça m'a fait du bien.
Ah, c'est vrai.
Un peu comme si, en fait, dans les. Je reviens à un autre film, c'est Coq à l'âne total, mais tu sais, dans Les Misérables, il y a des shots de drone narratifs. Puis ça fait tellement du bien quand t'as comme quelqu'un qui comprend que ça peut, je sais pas, tu sais, que tu peux utiliser des devices comme ça pour faire progresser une histoire et non juste établir.
La seule chose qui cloche, c'est que les shots sont focus, là, je veux dire, elle a des bons yeux là,
pour voir.
Elle a des yeux de nageuse. Je pense que vous faites la corne, ses yeux, quand vous nagez beaucoup en dessous de l'eau, Pascal.
C'est ça.
Il y a comme un coating qui est sur les yeux. Là.
Écoute, là, on est trop technique.
Non, mais depuis tantôt qu'on niaise un peu, mais c'est comme la série B bien foutue. Parce que la finalité est un peu ridicule, mais si tu étudies un peu ce film-là puis tu réfléchis un peu à la manière que le film est construit, c'est vachement intéressant.
C'est vraiment pas mal.
Au tout début, c'est ça, elle cherche son père, elle le trouve pas dans la maison, elle va au sous-sol, sous les fondations, tout ça, avec plein de tuyaux autour, puis elle se doute que son père est en train de gosser sur un tuyau parce que, bon... ça a été expliqué rapidement par un insert de son coffre à outils et tout ça. Et là, il y a comme une longue séquence où elle va marcher vraiment accroupie, là, parce qu'elle n'est pas capable de se lever, partout dans cet espace-là. Et là, soudainement, ça permet au spectateur d'un peu de visualiser, de faire un peu la map de cet endroit-là qui va devenir, dans le fond, pour le reste du film, ou presque, ton espace de travail, en guillemets. Là, le terrain de jeu de chat puis de la souris ou d'alligator et d'humain, dans ce cas-ci.
Ouais, le level, là, le niveau, là, c'est ouais. vraiment... Ouais.
Puis, fait que, tu sais, rapidement, c'est ça, c'est comme tous les plans sont tu sais, ils servent au moins une fonction. Et c'est ça, ce film économe, efficace, qui remplit tout à fait son mandat, qui est un mandat certes très modeste, mais vaut mieux ça que de donner trop d'ambition et de se foirer complètement. T'sais.
Ouais, exact. Ouais. Je suis super d'accord, Paul. Ça remplit son mandat, puis c'est un bon film de party, puis c'était le fun de le regarder en gang, puis de jaser un peu en même temps. Puis c'est pas comme. Oui.
Les alligators sont en CGI.
Ah, oh, okay, c'est ça. Ça a été
la fin de cet épisode. Mon nom est Pascal Plante.
Okay. Non, mais ça a été mon chialage tout le long. J'ai tellement pas arrêté. Mais tu sais, pour vrai, il y a des films là, dans le passé qui l'ont fait super bien, d'avoir juste un popette dans certaines shots où tu sens que l'alligator est vraiment là. Puis tu sais, c'est du beau 3D, mais il est en 3D pareil, là, tu le sens. Puis moi, ça me fait décrocher un peu. Je suis désolé. Je demandais pas qu'il traîne un alligator, là, mais tu sais, au moins là, d'avoir une couple de shots où tu le vois passer en background. Il y a des popettes là, qui sont tellement belles que tu peux utiliser. Puis tu sais, j'ai le feeling qu'Aja est tellement puriste que je sais pas à quel point c'est lui. Qui aurait dit non à ça, là, mais ça me
Moi, je pense que c'était un film un peu fauché, là, tu sais. Puis c'était l'option la moins chère, là.
I guess, mais... là. Ça doit être ça, là. Mais ça m'a un peu découragé, là, parce que je m'attendais à avoir du beau popette action.
En Serbie, au lieu. Tu sais, le film se passe en Floride, puis ils ont tourné en Serbie, là. Ouais, moi, je pense qu'il y a beaucoup de décisions, là, de producteurs.
Ouais,
là.
Ouais, c'est ça. C'est
pas Alexandre Aja, il fait de son mieux.
Ouais, I guess que c'est ça, la réponse finale. Mais ça a été ma petite déception, là. Mais reste que, tu sais. C'est pas long, puis c'est le fun. Là.
Ouais, non, voilà. c'est comme une des bonnes séries B de l'année. Il y en a sûrement d'autres de meilleure qualité, mais j'ai pas décidé ça. Là.
Genre, c'est comme un tiers de Irishman, à peu près.
OK. Mais au moins, ils ont pas pris la mauvaise décision de vouloir rajeunir les alligators en CGI. Ah, parce que...
Ça a été insane.
C'est un flashback quand ils sont jeunes, puis qu'ils vont courir après des enfants dans une piscine municipale.
Pourquoi donc il faut que je mange des gens? Ah oui, c'est parce que j'ai un traumatisme. Non, c'est le pire flashback ever. Là. Bon.
Bon, mais il y en avait d'autres, mais on va s'en reparler dans un prochain épisode.
Ben oui.
On va...
Attends, juste avant de finir, juste une chose à dire. J'ai pas encore vu Joker. OK, ben, tu peux finir le podcast.
Ah, Rémi, Joker, là, il est dans mon top 10 en ce moment.
Je vais aller le voir bientôt.
Oui.
J'attends qu'il n'y ait plus personne, puis que je sois tout seul dans le cinéma, puis je puisse me mettre en bobette, là. C'est pas mal.
Je vais t'envoyer une liste de films, Pascal, là, pour pas que tu nous mettes ça dans le top 10. Là. Ouais, ça n'a pas de bon sens. T'as-tu vu The Farewell de Lulu Wang? T'as-tu vu Force Sama?
Genre numéro 10. Tu sais, genre, il est là. Il serait vraiment là. Peu de liste, mais il serait là.
Ça
se peut que ça se passe. Ça se peut que ça se passe.
On va se quitter sa bande-annonce de Hidden Life de Terrence Malick, qui est en affiche à Noël. Là. C'était notre point de vue, mon nom Paul Andriot. J'étais avec mes collègues.
Rémi Fréchette.
Et Pascal Leplan.
Remember the day when we first met? I remember that motorcycle, my best dress. You looked at me and I knew how simple life was then.
Happened to our country.
We're killing innocent people,
raiding other countries, preying on the weak.
If our leaders, if they're evil, what does one do?
You have a duty to the fatherland. The church tells you so.
You cannot say no to your race and your hope. You are a traitor.
I can't swear loyalty to Hitler. I can't.
Do you think your defiance will change the course of things?
If God gives us free will, we're responsible for what we do, what we fail to do.
I can't do what I believe is wrong.
Let me go!
We have to stand up to evil.
Thank you.
whatever you do.